Pour le partenaire. Chapitre 1er. Il y avait un mur. Un mur modeste, formé de pierres non taillées grossièrement cimentées. Un adulte pouvait regarder par-dessus, et même un enfant pouvait l'escalader. Là où il croisait la route, il n'y avait aucune porte. Il s'estompait en une simple figure géométrique, une ligne, une idée de frontière. Mais cette idée était réelle, importante. Durant cette génération, il n'y avait rien eu de plus important au monde que ce mur. Comme tous les murs, il était ambigu, avec ses deux côtés. Ce qui se trouvait à l'intérieur et ce qui était à l'extérieur dépendait du côté depuis lequel on regardait. Vu d'un côté, il entourait un champ stérile de 60 acres appelé le port d'Anarès. Y étaient installées quelques grues flottantes, une aire de lancement et d'atterrissage, 3 entrepôts, un garage pour camions et un dortoir, une construction solide, sale et lugubre. Il n'y avait pas de jardin, pas d'enfants. Presque personne n'y logeait ou n'était censé y rester longtemps. Il s'agissait en réalité d'un lieu de quarantaine. Le mur n'entourait pas seulement le terrain d'atterrissage, mais aussi les vaisseaux qui descendaient de l'espace et les hommes qui voyageaient à bord de ces vaisseaux et les mondes d'où ils venaient, et tout le reste de l'univers. Il enfermait l'univers, laissant Anarès en dehors, libre. Vu de l'autre côté, le mur entourait Anarès. Toute la planète se situait à l'intérieur, comme un immense camp de prisonniers, coupé des autres mondes et des autres hommes, en quarantaine. Quelques personnes suivaient la route jusqu'au terrain d'atterrissage ou se tenaient là où elles traversaient le mur. Des gens venaient souvent de la cité toute proche d'Abney dans l'espoir d'apercevoir un astronef ou simplement pour voir le mur. C'était après tout le seul mur de démarcation sur leur planète. Il n'y avait aucun autre endroit où l'on pouvait voir un panneau disant « défense d'entrée ». L'endroit attirait surtout des adolescents qui cheminaient jusqu'au mur pour s'asseoir dessus. Parfois, ils avaient l'occasion de regarder une équipe débarquer des caisses des camions à chenilles près des entrepôts. Il pouvait même y avoir un cargo sur l'aire d'atterrissage. Il n'en arrivait que 8 fois par an, à des dates connues seulement des syndics travaillant au port, et quand les spectateurs avaient la chance d'en voir un, ils débordaient d'enthousiasme, dans un premier temps. Mais il restait là, à attendre, et le cargo demeurait lui aussi immobile, pareil à une noire tour trapue dans un fourmillement de caisses mouvantes à l'autre bout du terrain. Puis une femme s'écartait d'une équipe des entrepôts pour lancer « C'est terminé pour aujourd'hui, frère !» Elle portait le brassard du service de la défense, vision presque aussi rare que celle d'un astronef. C'était passablement impressionnant. Son timbre de voix, bien qu'empreint de douceur, avait quelque chose de catégorique. Elle dirigeait cette équipe, et si d'aventure on s'opposait à elle, ses syndics ne manquaient pas de la soutenir. Il n'y avait rien à voir de toute façon. Les étrangers, les extraplanétaires, demeuraient à l'abri de leur vaisseau. Aucun spectacle ne s'offrait aux curieux. C'était également un spectacle ennuyeux pour l'équipe de la défense. Parfois, la chef d'équipe souhaitait que quelqu'un essaye au moins de franchir le mur, un homme d'équipage étranger quittant le vaisseau, ou un gosse d'Abney tentant de se glisser à l'intérieur pour examiner le cargo de plus près. Or, cela n'arrivait jamais. Rien n'arrivait jamais. De sorte que quand quelque chose se produisit, elle n'y était pas préparée. « Est-ce que cette foule en a après mon vaisseau ?» lui demanda le capitaine du cargo, l'attentif. La chef d'équipe se tourna et vit qu'il y avait à présent toute une populace près de la porte, une centaine de personnes, voire davantage. Elle se bornait à rester là, à la façon dont les gens avaient occupé les gares en attendant les trains de vivre durant la famine. Elle fut prise de panique. « Non, il... proteste !» répondit-elle dans son iotique aussi lent que limité. « Il proteste contre le... vous savez, le passager. »«
Vous voulez dire qu'ils en ont après ce salopard que nous devons embarquer? Est-ce qu'ils vont essayer de l'arrêter ou de nous empêcher de le prendre ?»
Le mot « salopard », intraduisible dans la langue de la femme, ne signifiait rien pour elle, sinon une sorte de terme étranger désignant son peuple, mais elle n'en avait jamais aimé la sonorité, pas plus qu'elle n'appréciait le ton du capitaine ou même le capitaine.
« Vous pouvez vous débrouiller tout seul ?» s'enquit-elle sèchement.
« Bon sang, ben bien sûr que oui. Contentez-vous de décharger en vitesse le reste de cette cargaison. et faites monter à bord ce salopard de passagers. Aucune foule d'Odoniens ne nous créera le moindre ennui. »
Il tapota la chose qu'il portait à sa ceinture, un objet métallique évoquant un pénis déformé, et fixa des yeux protecteurs sur la femme des armées. Elle lança un regard froid à l'objet phallique, une arme, elle le savait.
« Le vaisseau sera chargé à 14h, » dit-elle. « Gardez votre équipage à l'intérieur. Départ à 14h40. Si vous avez besoin d'aide, contactez le contrôle au sol. »
Et elle s'en fut sans laisser au capitaine le temps de répliquer quoi que ce fût. La colère la rendait plus percutante vis-à-vis de son équipe et de la foule.
« Dégagez-moi cette route !» ordonna-t-elle en approchant du mur. « Des camions vont arriver, quelqu'un va se faire blesser. Dégagez la route !»
Les badauds pestèrent, discutèrent entre eux, sans cesser de traverser la route, au point que certains d'entre eux finirent par franchir le mur. Ils n'en libérèrent pas moins le passage, en tout cas une partie. Si la chef d'équipe ignorait comment mener une foule à la baguette, eux-mêmes ne savaient pas trop que faire de leur nombre. Membres d'une communauté, et non pas éléments d'une collectivité, ils n'étaient pas mus par des sentiments de masse. Il y avait ici autant d'émotions différentes que de gens. Ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des ordres arbitraires, aussi n'étaient-ils pas entraînés à leur désobéir. Ce fut leur inexpérience qui sauva la vie du passager. Certains d'entre eux étaient venus là pour tuer un traître, d'autres pour l'empêcher de partir ou pour lui crier des insultes, ou simplement pour le dévisager, et tout cela firent obstacle au mouvement décidé des assassins. Aucun d'eux n'avait d'armes à feu, mais certains étaient équipés de couteaux. Assaut signifiait à leurs yeux assaut corporel. Ils voulaient sentir le traître entre leurs propres mains. Ils s'attendaient à ce qu'ils viennent là entourés de gardes, dans un véhicule. Pendant qu'ils essayaient d'inspecter un camion de vivres, en échangeant des mots avec son conducteur indigné, leur cible arriva en marchant sur la route, seule. Quand ils le reconnurent, il était déjà à mi-distance du vaisseau sur l'aire d'atterrissage et 5 syndics du service de la défense le suivaient. Ceux qui voulaient le tuer se lancèrent à sa poursuite. Trop tard. Ils se mirent donc à lui lancer des pierres, pas tout à fait trop tard, qui l'atteignirent à l'épaule au moment même où il rejoignait le vaisseau, mais une pierre d'un kilo frappa un membre de l'équipe de la défense sur le côté de la tête et le tua sur le coup. Les écoutilles du vaisseau se refermèrent. Les membres de l'équipe de la défense repartirent en emportant leurs compagnons défunts. Ils ne firent aucun effort pour empêcher les meneurs de la foule de se précipiter vers l'astronef. La chef d'équipe, pâle d'indignation et de colère, leur cria des insultes quand ils passèrent près d'elle, et ils firent un écart pour l'éviter. Une fois devant le vaisseau, l'avant-garde de la foule se dispersa, hésitante. Le silence de l'astronef, les mouvements brefs des énormes grues squelettiques, l'étrange vision du sol brûlé, l'absence de toute chose à échelle humaine, tout cela les désorienta. Un jet de vapeur ou de gaz sortant d'un appareil relié au vaisseau en fit sursauter quelques-uns. Ils levèrent des yeux inquiets vers les fusées, ces grands tunnels noirs qui les surplombaient. Une sirène d'avertissement se mit à hurler à l'autre bout du terrain. Une personne recula vers la porte, puis une autre. Nul ne les arrêta. Au bout de 10 minutes, le terrain était libre et la foule s'étirait sur la route d'Abenay. Finalement, rien ne semblait s'être produit. À bord de l'attentif, en revanche, il se passait beaucoup de choses. Depuis que le contrôle au sol avait avancé l'heure du départ, tous les préparatifs devaient être accomplis en 2 fois moins de temps que d'habitude. Le capitaine avait ordonné que le passager soit sanglé et enfermé avec le docteur dans la salle de l'équipage, histoire de ne pas les avoir dans les jambes. Il y avait un écran dans cette salle qui leur permettrait d'assister au décollage s'ils le désiraient. Le passager le regarda. Il vit le champ et le mur qui l'entourait, et très loin du mur, les versants d'une éterrasse tachetée de touffes de holume et d'épines de lune argentées. Tout cela se précipita soudain vers le bas de l'écran. Le passager sentit son crâne s'enfoncer dans l'appui-tête. L'expérience évoquait un examen chez le dentiste, la tête repoussée en arrière, les mâchoires ouvertes de force. Incapable de reprendre son souffle, le cœur au bord des lèvres, il sentait ses entrailles se relâcher de peur. Son corps tout entier criait aux forces énormes qui s'étaient emparées de lui. « Pas maintenant, pas encore, attendez !»